Pour ceux qui suivent dans leur Bible, je vous propose de tourner à Matthieu chapitre 16, à partir de verset 21. Juste pour vous rassurer, je prends une tranche beaucoup plus petite cette fois-là. Matthieu 16, à partir de verset 21. Écoutez la parole de Dieu. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, car cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive, quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Parole du Seigneur. Alors, la semaine dernière, dans ce texte faisait partie d'une plus longue tranche des Écritures que j'ai lues, où j'ai essayé de souligner que le fait que les disciples ne comprenaient pas que Jésus devrait souffrir et qu'il devrait mourir. Ils ne comprenaient pas. Et j'ai suggéré qu'une des raisons, c'est parce que le chemin de la croix et la crucifixion, le chemin de la croix, la souffrance et le sacrifice de Jésus, ça c'est quelque chose qu'on a du mal au fond de nous à recevoir. On est plus attiré qu'on ne croit par le renommée, par le confort, par la sécurité dans ce monde, au lieu d'attendre la gloire qui va venir. Donc c'est ça que j'essaie de souligner, et c'est vrai, j'ai dit à la fin de ma prêche que j'aurais bien aimé parler plus de ce que c'est de prendre sa croix. Donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire de prendre sa croix, et on va aussi regarder Pierre comme un cas de figure dans ce texte et dans un autre texte. Alors, commençons par ce que c'est la croix. La croix à laquelle Jésus se réfère, ce n'est pas un pendentif joli. C'était un instrument d'exécution. Et non seulement d'exécution, mais de torture et d'humiliation totale. En fait, la croix, c'était fait pour humilier, faire souffrir et tuer le condamné. Et donc, quand Jésus dit de prendre sa croix, que chacun prendre ça, se charger de sa croix, ça veut dire d'accepter, bon, entre autres, ça veut dire d'accepter de suivre Jésus coûte que coûte, de s'identifier à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, de l'identifier ainsi, comme le Christ, même si ça nous coûte juste jusqu'à notre vie, même si ça nous coûte la réjection du monde. Et donc ça ne veut pas dire qu'on va tous se faire crucifier, bien sûr. Mais certains, oui, payent leur vie par la foi en Christ. Et quand on lit le texte, donc Jésus propose, si vous voulez me suivre, il faut être prêt à prendre sa croix, à me suivre, tu vois, à tout donner. Alors, si on prend ce texte, on peut diviser le monde en trois catégories de personnes. Alors, il y a ceux qui ne prennent pas leur croix, ceux qui ne suivent pas Jésus. C'est possible de ne pas suivre Jésus. C'est possible de dire « Ah oui, je crois, mais de ne pas le suivre. » Donc ça peut être ceux qui disent qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, mais qui ne suivent pas. Ils n'ont pas donné les rênes de leur vie à Jésus-Christ. Donc ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, c'est ceux qui prennent leur croix, qui disent « Oui, Seigneur Jésus, je crois en toi et je prends la croix que tu me donnes. Je te suis coûte que coûte, je m'identifie à toi et à ton royaume coûte que coûte. » Et cette semaine, en préparant le message, donc ça c'est le bénéfice de préparer un message, c'est qu'on est censé un peu laisser la parole nous pénétrer, laisser la parole nous parler, de méditer, de mâcher la parole. Et là, j'ai commencé à dire à Seigneur, mais, ok, la croix que tu me donnes, est-ce que je porte la croix que tu me donnes? Est-ce que je suis en train de te suivre coûte que coûte? Et où en moi est-ce que je suis en train de plutôt assurer ma sécurité ici-bas, assurer mes richesses, assurer mes désirs, mon confort avant tout? Parce qu'on a tous la tendance, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a notre chair, notre chair, le monde et le diable, tous les trois qui essaient de nous pousser vers faire un échange. Écoute, oui, tu suis Jésus un peu, mais rassure-toi, il faut quand même prendre soin de toi-même. Et j'ai eu un souvenir cette semaine. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de revoir un garçon pour qui j'étais au pair. Je faisais une année d'études à Paris, quand les dinosaures étaient encore sur la Terre. Et j'étais pour payer ma chambre, j'étais jeune fille au pair. Je gardais deux enfants, un garçon de 12 ans et sa sœur qui avait 2 ans, donc 12 ans, 2 ans. Et j'ai pris contact, j'avais gardé le contact, mais tu vois, vraiment, tous les quelques ans, on se disait joyeux anniversaire sur Facebook, un truc comme ça. Mais là, j'ai repris contact pour qu'on puisse se voir. Et on s'est donné rendez-vous dans un café à Paris. J'étais à Paris dans le cadre de mon boulot. Et un matin, on s'est vu dans un café. Et voilà, il n'est plus garçon. Il a une famille et des enfants. C'était il y a 30 ans que j'étais son au-père. Et voilà, j'arrive au bout de mon histoire. Alors, on se voit, on est très content de se voir. Et il envoie un message, un SMS à sa maman pour lui dire que voilà, je suis avec Peter. Tu vois, on s'est pris en photo. Et elle a répondu tout de suite en disant, est-ce qu'il a emmené Jésus avec lui? Et ça m'a touché parce que je me suis dit, c'est ça, son souvenir de moi, c'est quelqu'un qui parlait de Jésus. C'est quelqu'un qui parlait de Jésus, c'est quelqu'un qui s'identifiait à Jésus. Donc parfois on ne soupçonne pas notre témoignage. Et puis par la suite, je me pose la question, mais depuis, combien de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans mon entourage, dans mon jour de jour, depuis 30 ans, depuis ce temps, diraient la même chose? Et dans le cadre de réfléchir à est-ce que je porte ma croix, je commençais à sombrer. Tu vois, tu dis, ah non, oui, j'aurais pu parler à lui, mais non, mais j'avais pas envie, ça, il aurait pris comme un fou, ou je ne sais pas quelle réputation que j'aurais eue, et puis moi j'étais occupé. Et je pense à toutes les excuses que je fais pour ne pas obéir à l'appel de témoigner ou de prendre des risques, de m'identifier à Jésus quand j'aurais pu. Et je pensais à cette deuxième catégorie de personnes dont je fais partie. Je crois en Jésus. Mais là, je porte ma croix imparfaitement. Je suis sur un chemin de croix où je ne suis pas comme je devrais. Mais je connais quelqu'un. Pardon, ça m'émeut. On l'a déjà fait, en fait. C'est même pas la peine vraiment de prêcher parce qu'on a déjà fait pendant la communion, pendant la Sainte-Cène. Mais je connais quelqu'un qui est allé jusqu'au bout sans faille, sans défaut, un sacrifice sans défaut, qui a suivi son chemin, toujours fidèle au Père, en tout, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, c'est la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est Jésus. Il y a ceux qui ne portent pas la croix, ceux qui ne cherchent pas la croix, ceux qui chargent la croix. Et puis il y a Jésus qui s'est chargé de sa croix pour nous. Il a vécu sa vie sans péché. Il est mort en sacrifice pour nos péchés. Parce qu'on n'arrive pas à faire le nécessaire jusqu'au bout. Mais lui, il fait le nécessaire jusqu'au bout. Merci Seigneur. Alors, je veux quand même faire un petit virage et je veux parler de la confession. Et c'est la confession, de confesser ses péchés, c'est chargé, ce mot est chargé d'idées reçues. Et je ne vais pas en parler de toutes les facettes de la confession, mais dans notre chemin de croix, il nous faut régulièrement demander à Dieu pardon. Et là, c'est là où je veux prendre Pierre comme cas de figure. À la fin de l'évangile de Jean, vers la fin, c'est le dernier repas avec ses disciples. Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Ok? Et Pierre dit, tu ne vas pas me laver les pieds. C'était le boulot des esclaves, c'était le boulot des serviteurs. On ne laisse pas le Messie laver vos pieds. Et Jésus a dit, tu dois me laisser faire ça. Et puis il explique, il dit, ceux qui ont pris un bain n'ont pas besoin de se laver, sauf les pieds. Ceux qui ont pris un bain n'ont pas besoin de se laver, sauf les pieds. Et il y a beaucoup de commentateurs à travers les âges qui voient là-dedans, on est sauvé, on se fait baptiser. Le sang de Jésus nous lave de tout péché, le passé, le présent, le futur. Mais on a quand même toujours besoin de se laver les pieds. Donc que ça fasse partie, je vais parler un peu plus, mais que ça fasse partie de notre piété, que ça soit entre nous et Dieu, bien sûr. Et je ne suis pas en train... J'aurais dû dire ça un peu plus tôt parce que ça peut crisper. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Est-ce qu'il va commencer à inviter les gens à venir devant pour confesser? Non, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que j'entends. Mais quand le Saint-Esprit souligne dans notre cœur, là on a eu tort de lui dire et de demander pardon et de recevoir son pardon. Et parfois, on a besoin de dire à un frère ou une sœur de confiance. Il y a des péchés qui s'accrochent à nous. Et on a besoin de quelqu'un qui peut entendre, oui, notre confession devant le Seigneur, d'entendre, de témoigner et même de prononcer le pardon. Le Seigneur te pardonne, le sang de Jésus couvre ton péché. Et deux fois depuis, peut-être il y a plus, mais moi j'ai remarqué que deux personnes, depuis le début de l'année, ont dit lors d'un culte de devant, voilà la parole du Seigneur pour cette église, cette année, une onction de joie. Amen. Une onction de joie cette année pour l'église. Vous voulez une onction de joie? Confessez vos péchés et recevez le pardon du Seigneur. Le psaume 51, écrit par David, et en fait c'est écrit, si tu prends le psaume 51, c'est écrit au-dessus du psaume quand David avait péché avec Bathsheba et le prophète Nathan est venu lui dire, le Seigneur a envoyé un prophète dire à David qui avait commis l'adultère, toi tu es coupable, et David a confessé sa faute. Et dans le psaume 51, il dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et notre plus grand joie, le plus grand soulagement, le plus grand joie, c'est de savoir aimer de Dieu et pardonner de nos péchés. Merci Seigneur. Et je nous mets en garde, comment dire, d'une théologie qui dirait, bon, Jésus a déjà tout payé, donc j'ai pas besoin de voir ça, j'ai pas besoin d'être traité, mes pieds sales sur la route, j'ai pas besoin de me laver les pieds sales parce que Jésus a tout lavé de toute manière. D'une certaine manière, oui. Mais d'une autre manière, la crasse peut s'accumuler et n'arrive plus à marcher, ou on tombe du chemin. Je pense, cette semaine, je pensais pas mal à, par exemple, sans nommer des noms, vous pouvez peut-être deviner qui c'est, mais dans les dernières quelques années, même très récemment, il y a deux hommes emblématique du monde chrétien, hein, d'un arrière-plan plutôt évangélique, traditionnel, non charismatique, l'autre pasteur d'une grande église charismatique, et j'ai même offert un livre à Matt quand je suis arrivé de cette personne, je ne dis pas que c'est bon. Et en fait, récemment, on a dû retirer ces livres de la CLC où je travaille, parce que il s'est venu à la lumière que cet homme vivait une double vie. Il vivait une double vie. Il vivait dans le péché. Et l'autre, c'était pareil. C'était pareil. Et ce n'est pas pour dire que, oui, mais moi, merci Seigneur, car je ne suis pas comme ces hommes. Tu vois, c'est pas ça. Mais je me pose la question, est-ce que ces hommes-là, parce qu'ils avaient un grand rayonnement, et avec ce rayonnement, j'imagine, vient la tentation justement d'un peu de baigner dans une gloire terrestre, de notre orgueil gonfle. Et est-ce que ces hommes, quand ces tentations sont venues, ou quand ils sont tombés une première fois, est-ce qu'ils avaient le réflexe de dire, j'ai besoin de dire à un frère, je ne peux pas garder ça pour moi. Ou est-ce qu'ils se sont dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Jésus est mort pour ses péchés de toute manière. Et c'est vrai. Mais la confession comme partie de notre piété, ça peut être un garde-fou à rester dans la sainteté. On a chanté ce matin sur la sainteté. Merci Seigneur. Alléluia. Et dans la même veine... Revenons sur notre passage et Pierre. Okay. L'apôtre Pierre, c'est drôle, ça me rassure, parce que Pierre, je ne l'ai pas lu, on l'a lu la semaine dernière, mais juste avant qu'il soit repris par le Seigneur, c'est Jésus qui pose la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui répond, et c'est marqué dans le texte, Jésus dit, « Bon, je ralentis. Je prends mon souffle. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, boum, c'est ça Pierre, c'est ça. Et c'est même pas toi qui as réfléchi ça. C'est pas des gens, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Bravo. C'est pas marqué dans le texte, bravo. Mais tu as raison. Et je résume. Et Pierre, je vais t'utiliser comme leader dans l'Église. Tu vas lier et délier, tu as les clés du royaume. Et puis, juste après, Jésus commence à dire, et moi, je dois commencer à vous expliquer que je vais souffrir et que je vais mourir. Donc Pierre, qui recevait dans un sens des louanges du Seigneur, deux minutes après, Jésus est en train de lui dire, arrière de moi, Satan. Donc, il avait raison, Pierre. Il aimait le Seigneur. Le Saint-Esprit l'a révélé cette chose la plus importante, que Jésus est le Christ. Mais puis, tout de suite après, il est en train de dire des grosses bêtises. Ça t'arrivera pas, Seigneur. Et Jésus le reprend. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, en prenant Pierre comme un exemple, il faut savoir prendre les reproches, Oui, quand le Seigneur nous reprend, il faut le prendre. Il faut subir, mais il faut... Oui, Seigneur. Sachant qu'il nous aime et qu'il châtie ceux qu'il aime. Et pour montrer que j'invente pas, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, à partir de verset 3, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt à la correction à laquelle tous on part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair. Bon, je vais arrêter là. Le Seigneur, il nous corrige parfois. Ça fait partie de notre chemin avec le Seigneur. Ça fait partie du chemin de quoi? Dans sa bonté, il nous corrige. Et il faut pouvoir dire, OK Seigneur. Et le confesser. Je dis, OK, j'ai eu tort. Merci Seigneur pour sa patience envers moi. Merci car tu m'enseignes. Merci car tu es fidèle d'amener jusqu'au bout la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Alors, revenons sur l'idée du fait que sur la terre, sur notre chemin de croix, on est tenté de poser la croix, de reprendre les rênes, attiré par les choses la vie peut nous offrir aujourd'hui, attiré par des choses, des bonnes choses, mais qui pourraient nous dérailler. Je ne veux pas en train de dire que le Seigneur ne veut pas des bonnes choses pour nous, ce n'est pas ça. Mais si ces bonnes choses sont prioritaires sur ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est là où il y a un problème, et ça sera toujours une tension de notre vie de mettre l'appel du Seigneur d'abord j'aimerais bien partager une anecdote et puis un dernier passage pour, j'espère, pour nous encourager. Alors, juste avant de déménager à Montélimar, on vivait aux États-Unis, où il y a mes parents et ma sœur, et on n'habitait pas dans la même ville, on était très loin de là où ils habitaient. Ma sœur et sa famille, mes parents, ils habitent en Floride, où il fait très beau, dans un très beau cadre, et on a passé 2 semaines avec eux avant de venir. C'était un peu des vacances, pas de revoir, mais on ne savait pas. Justement, je n'ai pas vu mes parents depuis, ça va faire 3 ans cet été. Et donc c'était pour passer du temps avec eux avant de partir en France définitivement. Et on a eu un séjour très agréable. Ni mes parents, ni ma soeur et sa famille sont en Christ. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Très hospitaliers, très généreux. Ce sont des gens bosseurs, qui disciplinés et qui jouissent des fruits de leur travail. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, ils habitent dans de beaux quartiers, ils peuvent se payer des restos et nous payer des restos quand ils veulent. Ils ont une vie aisée et je ne suis pas en train de leur critiquer, c'est pas ça. Ils se jouissent d'un cadre de vie exceptionnel et une partie grâce à leur travail dur, le fait qu'ils ont bien travaillé dans leur vie. Et disons que je baignais là-dedans pendant 2 semaines de bonnes choses. Tu vois, un beau cadre. Et comme j'ai dit, c'était agréable. Alors là, nous, moi et ma famille, on prenait un pas de foi. On quittait les États-Unis, on venait à Montélimar parce qu'on a cru comprendre que le Seigneur nous disait de venir ici sans savoir ce qui nous attendait. Bon, avec l'aide des parents de ma femme ici en France, on a trouvé un appartement avant de venir, donc on savait qu'on arrivait, on avait quelque part pour être logé, mais j'avais pas de boulot ni de proposition de boulot. Et donc là, on prend un pas de foi, et dans les yeux du monde, c'est quand même de la folie. Qu'est-ce que vous faites? On avait quand même une situation stable dans les yeux du monde, aux États-Unis. Et en arrivant cette première semaine en France, après les 2 semaines chez mes parents, j'arrive à la fin. Voilà, et c'est une confession. Il y a des pensées qui commençaient à tourner dans la tête. Peter, est-ce que tu as fait des bons choix? Est-ce que tu as loupé quelque chose? Est-ce que tu as passé à côté des occasions de se jouir de la vie, d'en profiter? Est-ce que tu aurais dû mieux réfléchir par rapport à comment tu fais croître ton argent et des trucs comme ça? J'ai commencé à dire, peut-être j'ai loupé quelque chose. Est-ce que... Bon, vous voyez, ça, c'était un peu le flou, mais ça pas un tourbillon, mais ça trottait dans la tête. Et là, pendant ces quelques jours après notre arrivée, dans ma lecture quotidienne dans la Bible, j'ai lu le passage suivant. Et je vais terminer avec ça. C'est Actes, chapitre 20. À partir du verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle. Actes chapitre 20, à partir du verset 22. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et ça, mes amis, c'est une parole pour chacun de nous, mais c'était une parole pour moi, tout particulièrement ce jour-là. Et j'ai menti, je vais quand même ajouter une dernière chose que je voulais mentionner tout à l'heure. C'est que quand nous choisissons de nous charger de notre croix et de suivre Jésus, il nous accompagne. Il est avec nous. On jouit d'une intimité avec le Dieu vivant. Donc, ce n'est pas que les chaînes, les liens dont il parle, c'est pas que les souffrances, c'est pas que les choses dures. C'est inévitablement des choses dures avec l'accompagnement du Dieu Tout-Puissant lui-même. Et je ne n'échangerai pas pour la vie de mes parents. Je suis content que mes parents puissent vivre et ma sœur puisse vivre dans le cadre dont ils vivent. Mais en même temps, d'avoir le monde, de gagner le monde, mais de perdre son âme, de gagner le monde, mais de le faire sans l'amitié de Dieu en Jésus-Christ, c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Je vous laisse avec ça.